Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de savoir sur Radio Campus, c'est la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, c'est Thomas Guessling, ce micro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de Paris, dit COP21, et de ses implications sur la Belgique. De l'avis général, l'accord de Paris, dit de la COP21, est le premier accord universel sur le climat. Pratiquement, la signature de l'accord a été rendue possible dès le 22 avril, et cela jusqu'au 21 avril 2017, la durée donc d'un an, au siège des Nations Unies. Mais dès le 22 avril dernier, journée de la Terre, 175 parties, à savoir 174 pays plus l'Union européenne, ont signé cet accord de COP21, dont 15 déposant leurs instruments de ratification, principalement des petits États du Pacifique, les plus exposés au risque de montée du niveau de la mer, par exemple, mais qui ont un impact finalement très réduit en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors concrètement, l'accord de Paris n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables ensemble d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié. L'adoption de l'accord de Paris lors de la COP21 a donc été largement salué comme une étape historique dans la lutte internationale contre les changements climatiques. Son succès est toutefois conditionné à la mise en place par les gouvernements nationaux de cadres d'action qui soient à la hauteur de l'ambition affichée. Dans ce contexte, l'Union européenne et la Belgique seront rapidement amenées à rehausser leur engagement et à poser les actes qui doivent initier la transition vers une société bas carbone, appelé les vœux de pas mal de personnes, dont nos deux invités pour en parler aujourd'hui, Étienne Hanon, co-titulaire d'un cours consacré au changement climatique à l'Université libre de Bruxelles. Il est également conseiller au SPF Santé publique et environnement, et Damien Ernst, qui est professeur à l'Université de Liège et spécialiste des questions énergétiques. Alors, si on parle de tout ça, c'est parce que une conférence est prévue à l'ULB, son titre « Accord de Paris sur le climat, quel défi pour la Belgique ?» Une conférence qui se tient le 28 avril. On parle donc de ce sujet en compagnie donc de deux professeurs, de deux experts qui vont prendre la parole lors de cette conférence, Étienne Hanon et Damien Ernst. Autour de la table aujourd'hui, deux personnes, Étienne Hanon, Damien Ernst, bonjour, pour nous parler d'une conférence qui va se tenir à l'Université libre de Bruxelles, dont le titre est « Accord de Paris sur le climat, quel défi pour la Belgique ?» prévu pour ce 28 avril. Alors, Étienne Hanon, je vous présente, vous êtes co-titulaire d'un cours sur les changements climatiques. Vous vous intéressez plus exactement à l'aspect politique de ces changements climatiques?
Oui, c'est ça. Disons que mon domaine de compétence, c'est effectivement la politique du climat au niveau mondial, au niveau européen et belge. Et donc, c'est à ce titre que je partage cette charge de cours à l'ULB.
Et que vous allez nous parler donc de la COP21, de ses implications et de la manière dont cela va se transformer sur le terrain à partir du moment où la signature a été posée par 175 parties vendredi 22 avril. Mais on sait qu'on est loin du compte, vu qu'il faut encore passer par la ratification pour que cela puisse être mis en œuvre. Mais on en parlait pas dans un instant. Je dois encore préciser, Étienne Hanon, que vous êtes également expert, conseiller auprès du SPF Santé publique et environnement.
C'est exact.
Une double casquette donc. Damien Ernst, vous êtes professeur à l'Université de Liège et vous êtes spécialiste de questions énergétiques.
Ah, tout à fait.
Et donc à ce titre aussi, vous aurez pas mal de choses à nous dire sur ce traité. Alors, pour le dire simplement, votre communication, Étienne Hanon, lors de cette conférence, portera évidemment sur l'accord de Paris, sur le bilan et les implications pour la Belgique.
Oui, ce que je vais essayer de montrer, c'est... après cet événement historique, beaucoup d'observateurs ont qualifié cette conférence de Paris d'une conférence historique, l'accord comme étant tout à fait inédit dans le droit de l'environnement international. Et effectivement, c'était une étape tout à fait essentielle qui a été franchie. Maintenant, c'est précisément une étape. Il y en a beaucoup d'autres qui suivront. Et donc, la balle est dans le camp maintenant des gouvernements nationaux, en fait, pour ratifier dans un premier temps, mais surtout après, pour agir en conséquence et démontrer qu'on prend au sérieux cet accord de Paris. Et le prendre au sérieux, ça veut dire mettre en place toutes les mesures au niveau national qui nous engagent sur une décarbonisation de l'économie, la transition vers vers un monde avec zéro émission de CO2. C'est un chantier gigantesque.
Et donc, c'est l'idéal, évidemment.
Oui, donc c'est ce chantier qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Et donc, moi, je vais essayer, durant cette conférence, de montrer ce lien entre le traité qui fixe le cadre et les étapes qui vont devoir suivre au niveau national.
De votre côté, Damien Ernst, lorsque vous prendrez la parole lors de cette conférence, vous allez traiter des défis de la transformation. Je cite l'intitulé de votre communication. Défi de la transformation du système énergétique en Belgique.
Voilà, tout à fait.
Et quoi qu'il en soit, que ce soit à un niveau global ou à un niveau plus national, zéro émission de gaz à effet de serre, ça c'est un idéal qui nous paraît quasi inaccessible. On sait que d'autres échéances sont connues, elles se trouvent dans le traité, 2050 par exemple, une date butoir pour une réduction de près de 80% de ces émissions de gaz à effet de serre. Réalisable ?
J'ai envie de dire, tout est toujours réalisable, mais ça dépend à quel coût. Et en général, quand vous ajoutez trop d'argent dans le secteur de l'énergie, donc quand vous mettez trop d'argent pour produire de l'énergie, vous remarquez aussi que ça a des implications terribles sur l'économie, terriblement mauvaises sur l'économie. Donc ça provoque une décroissance. Enfin, cette relation entre prix de l'énergie et économie, santé économique, est quand même assez bien connue. Donc on doit le faire, mais si on ne veut pas non plus avoir des sociétés qui périssent, en fait, que cette énergie devienne une contrainte pour les sociétés, il faut le faire aussi de la meilleure manière. La meilleure marché possible. Et c'est là qu'est le problème. Et moi, j'ai envie de vous dire, là, à technologie actuelle, c'est pas faisable. C'est vraiment pas faisable. Le coût pour les sociétés serait trop élevé.
Alors, on va pas baisser les bras. Il faut quand même trouver des solutions. Ça veut dire qu'à technologie actuelle, vous dites, Damien Ernst, ce n'est pas faisable. Quelles sont les solutions pour dépasser ce problème ?
Moi, je pense que la technologie va vraiment s'améliorer énormément. Et donc, la solution va venir probablement du côté du photovoltaïque. Je n'y crois pas trop du côté de l'éolien. Je vois du côté de photovoltaïque, où ça bouge extrêmement vite, et du côté des batteries. Parce qu'une fois que vous produisez cette énergie, quand vous avez du PV, bon, c'est fortement intermittent. Vous devez aussi pouvoir le stocker. Et on voit énormément de progrès au niveau des batteries. Donc, je pense là, un vrai élément de solution, photovoltaïque, batterie, ou alors des infrastructures gigantesques de type réseau électrique mondial.
Mais là, vous parlez des possibilités qui sont à l'œuvre en Belgique peut-être, dans les pays industrialisés sûrement. C'est réalisable globalement, partout dans le monde, dans les pays émergents par exemple ?
Je pense qu'un pays émergent comme le Maroc, hein, si on appelle ça un pays émergent, ils sont mieux placés que la Belgique. En fait, ils ont beaucoup de vent, ils ont une face sur l'Atlantique terriblement bien exposée, ils ont beaucoup de soleil.
Donc, et un parc photovoltaïque qui a été inauguré il n'y a pas tellement longtemps.
Ce n'était pas du photovoltaïque, c'était du, ce qu'on appelle du solaire concentré. Donc, c'est des miroirs qui chauffent de l'eau, hein, finalement, d'accord. C'est ça. Donc, ils sont beaucoup mieux placés que la Belgique. Mais pour un pays comme la Belgique, on a peu de place, finalement, pour mettre des éoliennes. Les gens n'aiment pas les éoliennes. Et on n'a pas énormément de soleil. On a du soleil, mais pas énormément. Un pays comme la Belgique qui veut produire toute son énergie avec de renouvelables, pour un pays comme la Belgique, l'effort à faire est vraiment titanesque, en fait. Titanesque.
Enfin, quelque chose partagez cet avis, Tinano.
Oui, je partage cet avis avec une petite nuance qui est... ici, on parle de la capacité de production. Et je pense que le défi énergétique, on peut le relever que si on agit... En rendant verte la production d'énergie, ça c'est un pas, mais aussi en maîtrisant la demande d'énergie et qu'on doit donc agir du côté de la demande. Est-ce que la plupart des études, et je pense notamment à une étude qui a été réalisée il y a quelques années à la demande des quatre ministres en charge de l'énergie à l'époque en Belgique pour voir quelle était la faisabilité d'un passage à 100% d'énergie renouvelable en Belgique. Et une des conclusions était que oui, le potentiel technico-économique existe, mais que ça implique dans le même temps de maîtriser l'augmentation de la demande énergétique. Et ça se fait notamment en appliquant dans tous les secteurs les méthodes les plus efficaces du point de vue énergétique. Donc c'est économiser l'énergie en utilisant en bout de chaîne, au niveau du poste consommation énergétique, en améliorant le plus possible l'efficacité énergétique. Et à ce moment-là, en réduisant cette demande et dans le même temps en utilisant tout le potentiel de capacité de production, on parlait de l'éolien, en Belgique c'est vrai que le territoire est limité, mais il y a l'éolien offshore où il y a encore un certain potentiel à développer, alors on peut résoudre la quadrature du cercle dont vous parliez tout à l'heure peut-être.
Moi je me permets de reprendre.
Allez-y,
ce que vous
Damien.
Dites. Je suis d'accord avec vous, hein, il faudra aller chercher 400 TWh d'énergie, hein, c'est ça notre consommation primaire d'énergie, donc avoir 400, générer 400 TWh d'énergie en renouvelable en Belgique, ça équivaut quoi ? Ça équivaut à couvrir 3000 km² de surface avec du photovoltaïque, c'est immense et titanesque. Et donc effectivement, on sent que ça doit passer par une réduction d'énergie, enfin, ce serait une des solutions. On pourrait par exemple passer de la voiture à essence à la voiture électrique. Hein, la voiture électrique, le moteur électrique est beaucoup plus efficace qu'un moteur à essence. Et donc là, on voit bien qu'il y a une meilleure efficacité.
Il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut bien produire l'énergie quelque
part.
Oui,
mais bon, on va dire pour faire 100 km avec une voiture électrique, on va dire 20 kWh d'énergie. Avec un moteur à essence, on est plutôt aux alentours de 60 kWh d'énergie. D'accord. Donc là, il y a une vraie réduction à faire. Pour y isoler les maisons, il y a une vraie réduction d'énergie à faire aussi dans la charge chauffage. Mais ce qu'on remarque, c'est que souvent, lorsqu'on fait des réductions d'énergie sur un poste, les gens ont plus d'argent pour dépenser sur un autre poste. Ils achètent moins d'énergie pour ce poste-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un billet d'avion, ils vont en vacances avec la famille en Afrique du Sud. Et en fait, vous ne faites pas de réduction d'énergie. Et donc, on le sait très bien que lorsque on travaille sur l'efficacité énergétique sur un poste, les gens consomment, en fait, et dépensent plus d'énergie dans un autre poste de consommation.
Alors ça, c'est le fameux impact carbone. Effectivement, ce n'est pas la peine d'aller tous les jours à vélo au travail si c'est pour partir en vacances en avion.
Oui, c'est ça. Mais bon, moi, j'attends toujours de voir une économie qui est capable de décorréler la croissance du PIB avec la consommation énergétique. L'Europe montre qu'elle y est plus ou moins arrivée ces dernières années, mais quand on voit, quand on analyse un peu ces chiffres, on se rend compte que c'est surtout grâce au fait qu'on importe de plus en plus d'objets, de choses qui sont fabriquées de l'étranger, et que dans ces choses fabriquées, hein, un téléphone, un ordinateur, une voiture, il y a une énergie hein, qui a été nécessaire pour les fabriquer, et que c'est une importation indirecte d'énergie. Et l'Europe n'a même pas encore réussi à décorréler ce PIB d'une consommation énergique quand on analyse bien les chiffres. Donc cette efficacité énergétique, quand on parle d'efficacité énergétique comme solution, je dis oui, mais j'attends de voir.
Et quand on entend, comme vous le disiez il y a un instant, Étienne Hanon, et je rappelle que vous êtes entre autres co-titulaire d'un cours par rapport au changement climatique, vous disiez qu'il faudrait réduire, si je ne m'abuse, si je simplifie un peu votre discours, la demande en énergie. On a souvent l'impression que c'est le commun des mortels, le particulier, qui doit faire l'effort pour y arriver. Mais il y a question aussi de mettre en place des politiques qui permettent plus globalement de renforcer cette tendance.
Oui, tout le défi est là, évidemment, c'est des politiques qui vont accompagner cette transition. Alors, il faut aussi faire la distinction des différentes réalités à l'échelle mondiale, parce qu'on parle aujourd'hui de l'accord de Paris, mais l'accord de Paris, il fixe un objectif qui est mondial. En fait, l'objectif qui est fixé, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et de viser, bien en dessous, le texte stipule bien en dessous de 2 degrés et si possible de converger vers un objectif de 1,5 degré. Donc ça, c'est le plafond de réchauffement que s'est fixé la communauté internationale.
Excusez-moi, ça c'est par rapport à l'époque actuelle ou par rapport à l'époque pré-industrielle ?
Par rapport à l'ère pré-industrielle. Ouais, donc en valeur absolue, on s'autorise entre guillemets 1,5 à maximum 2 degrés de réchauffement. Ça implique, l'objectif qui est traduit en termes de réduction d'émissions dans l'accord de Paris, c'est d'atteindre le plus rapidement au niveau mondial un pic d'émissions, sans fixer le calendrier, mais le plus rapidement, et en tout cas d'atteindre un niveau net de zéro émission quelque part entre 2050 et 2100. Ça, c'est l'image à l'échelle mondiale. On doit donc, au niveau planétaire, réduire nos émissions à zéro dans le courant de la deuxième partie de ce siècle. Et évidemment, on ne va pas le faire de manière homogène dans tous les pays du monde. On a des réalités de développement qui sont totalement différentes. On a la réalité des pays dont nous faisons partie, les pays industrialisés historiques, qui ont leur développement derrière eux, quelque part, j'ai envie de dire. Et puis, il y a toute la problématique des économies émergentes qui s'engagent dans des trajectoires de développement avec un certain rythme, une certaine dynamique et des impératifs de développement, mais pas seulement, des impératifs de lutte contre la pauvreté, des impératifs d'accès à l'énergie. Hein, je pense à un pays comme l'Inde qui me vient à l'esprit, avec une énorme fraction de la population qui reste aujourd'hui à l'écart de l'accès à l'énergie, de l'accès à l'eau potable, dans une extrême pauvreté. Donc il faut bien se rendre compte que ces pays-là ont d'autres priorités sur l'agenda politique.
On n'est donc pas tous logés à la même enseigne.
Donc on n'est pas logés à la même enseigne. Et donc nous avons affaire à des réalités très différentes qui vont appeler des solutions différentes. Et donc chaque situation spécifique aura sa propre approche. Mais effectivement, enfin, on va arriver sur le terrain de ces discussions de l'accompagnement politique. Quelles sont les vraies mesures concrètes qui pourront être prises?
Voilà, Damien,
je trouve que dans la COP21, alors je n'allais pas me faire dire que je suis contre la COP21 et de ce mouvement des pays qui se regroupent pour résoudre un problème écologique. Hein. Je ne suis pas contre du tout. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de naïveté dans ces COP21 et par rapport à ces pays pauvres, il ne faut pas qu'ils aient trop de contraintes en termes d'émissions parce qu'ils n'ont pas cette pollution historique, il faut qu'ils puissent se développer. Moi, je trouve que ça, c'est une légende urbaine. Parce que l'Afrique, elle n'a jamais réussi, par exemple, à développer un bon système énergétique, un bon système électrique. Et qu'est-ce que c'est la chance maintenant pour l'Afrique en termes d'énergie? C'est pas le vieux charbon polluant. La chance pour l'Afrique, c'est quoi? C'est du panneau photovoltaïque et des batteries. Et créer ce qu'on appelle des micro-réseaux, des petites structures locales, à l'échelle d'un village, de quelques maisons, d'un hôpital, qui permettent d'avoir une alimentation en électricité. Donc moi, je ne les vois pas, ces énergies renouvelables, comme des contraintes pour des pays pauvres. Je les vois comme étant une chance, une vraie chance pour des pays pauvres. Et pour moi, ça, c'était une des premières légendes urbaines de la COP. Une deuxième légende urbaine, c'est de penser en fait, que mettre des contraintes en termes d'émissions sur les pays pourrait vraiment était en fait la meilleure manière de procéder. C'est ce qui est un peu fait de manière implicite, puisque c'est sur ça qu'on s'est focalisé lors des discussions. Et moi, je pense que ça, c'est une mauvaise piste. Il aurait fallu beaucoup plus mettre des contraintes, dire au pays, voilà, organisons une compétition, mais donc des contraintes technologiques, des contraintes en termes d'objectifs technologiques. Essayons, par exemple, de produire un panneau photovoltaïque, on a bien une bonne identification des technologies qui peuvent être vraiment très prometteuses, devenir très prometteuses dans les années à venir, et essayons d'en produire à un tel prix. Ou essayons de produire une batterie sur une telle technologie prometteuse à un tel prix. Et mettre ce type de contraintes-là, des contraintes sur les résultats technologiques, et là, ça permettrait, à mon avis, d'amorcer beaucoup plus rapidement et à meilleur coût la transition énergétique. Au niveau du réseau électrique, par exemple, on sait bien que si on construisait, par exemple, des méga-connexions entre le Groenland et l'Europe, on pourrait apporter toute cette énergie éolienne pas chère du Groenland. Mais voilà, une contrainte qui aurait été chouette, c'était de dire on a une obligation d'interconnecter, en fait, les grands centres de consommation avec ces endroits où il y a des champs d'énergie renouvelable extrêmes, il y a une telle hauteur, de sorte qu'alors là, des développeurs éoliens puissent installer leurs éoliennes. Et ça, c'était, je trouve, des projets beaucoup plus intelligents. Je trouve que la COP21, à ce niveau-là, alors que sur le fond, c'est bien, je trouve que vraiment, la manière où les résultats, ils auraient pu faire mieux, et ils adoptent les mêmes techniques de travail qu'ils ont adoptées depuis longtemps pour venir sur des contraintes sur les émissions. Ils doivent vraiment changer la matière, plus technologique, plus objectif en termes de design d'infrastructure. Et là, ils auront de nettement meilleurs résultats. Et ça coûtera moins cher à nos sociétés.
Voilà, ceci dit, on peut dire que cette COP21, l'accord de Paris, est quand même, beaucoup d'aucuns le disent, le premier accord universel sur le climat, même si on sait qu'il y a des précédents, Kyoto et d'autres, mais ici on a un accord plus universel. Pratiquement, pour revenir à ce traité, la signature de l'accord a été rendue possible dès le 22 avril et pour un an, jusqu'au 21 avril suivant, au siège des Nations Unies, mais déjà le vendredi 22 avril, c'était la journée de la Terre d'ailleurs, 175 parties, à savoir 174 pays et l'Union européenne, ont signé cet accord, dont 15 déposant leurs instruments de ratification. Alors, c'est principalement d'ailleurs les pays qui ont déjà ratifié cet accord sont des petits États, généralement des atolls du Pacifique, qui sont en première ligne, évidemment, d'un éventuel impact des émissions de gaz à effet de serre sur l'augmentation du niveau de la mer. Alors, l'accord de Paris n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables, ensemble d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre, l'auront ratifié. Ça veut dire qu'en gros, si je ne m'abuse, il est impossible d'y arriver si des gros consommateurs, des gros pollueurs, comme les États-Unis ou la Chine, ne ratifient pas l'accord.
Oui, donc c'est un seuil qui a été fixé, effectivement. Donc il y a un quorum qui doit être atteint pour que l'accord puisse entrer en vigueur, tout simplement parce que ici, on fixe des règles d'un jeu qui, pour qu'il soit efficace, doit se jouer au niveau le plus global possible. On ne pourrait pas avoir un impact efficace de ce traité avec une toute petite participation. Néanmoins, on ne s'est pas tiré une balle dans le pied puisque ce seuil de 55 parties représentant au minimum 55% des émissions, on a la quasi-certitude qu'il sera atteint par un nombre suffisant de parties pour ne pas retomber effectivement dans le biais du protocole de Kyoto qui avait été à un moment donné pris en otage par le retrait définitif des USA et temporaire de la Russie qui a fait une sorte de chantage pendant quelques années pour forcer sa participation. Mais donc, on ne va vraisemblablement pas se retrouver dans ce cas de figure. Et ici, on a de bonnes raisons de penser que ce quorum va être atteint. Maintenant, il ne faut pas s'inquiéter...
À quelle échéance ?
Alors, j'allais parler échéance, justement. Il ne faut pas trop s'inquiéter des retards de calendrier. Il faut savoir que le processus de ratification est très variable, d'abord selon les législations nationales. Parfois, ça doit passer devant les parlements, parfois pas, par les gouvernements, etc. Dans un pays comme la Belgique, par exemple, ça va devoir passer devant 4 assemblées de l'État fédéral et des 3 régions. Au niveau européen, il y a une complication, on va dire, supplémentaire, qui est le fait que les instruments de ratification doivent être déposés de manière synchrone entre les 28 États membres et l'Union européenne. Donc voilà, ce qui veut dire qu'il va prendre de toute façon plusieurs mois, vraisemblablement 1 à 2 ans de délai. Et le défi, c'est que tout soit bien en ordre pour 2020, parce que le traité de Paris porte en fait sur l'après-2020. Le protocole de Kyoto fixait des engagements contraignants pour les pays industrialisés jusqu'en 2020. Et donc vraiment l'enjeu, c'est d'avoir une suite, de ne pas avoir d'interruption entre Kyoto et le traité qui suit.
Et dans la plupart des cas, ce sont les parlements nationaux qui doivent ratifier l'accord.
Au niveau européen, en tout cas, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans les 28 États membres. Je n'ai pas ce détail en tête, mais d'une manière générale, c'est le processus.
Aux États-Unis, par exemple, ça doit être ratifié par le Congrès.
Alors oui, aux États-Unis, vous me posez une question à laquelle je ne vais pas pouvoir vous répondre avec précision. Je sais que le président Obama a assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour que les USA soient le plus engagés possible dans ce processus avant la fin de son mandat. Maintenant, qu'est-ce qui est possible après l'élection qui aura lieu à l'automne ? Je ne peux pas vous être affirmatif à ce sujet.
Donc, pour bien résumer l'affaire, l'adoption de l'accord de Paris lors de cette COP21 a donc été largement saluée comme une étape historique dans la lutte internationale contre les changements climatiques. Il n'en demeure pas moins que son succès est conditionné à la mise en place, comme on vient de le dire, par les gouvernements nationaux, de cadres d'action qui soient à la hauteur de l'ambition. Et dans ce contexte, l'Union européenne et la Belgique vont être rapidement amenées à rehausser leur engagement et à poser des actes qui doivent initier la transition vers cette fameuse société qu'on appelle de nos voeux, société bas carbone. Alors, dans sa résolution de novembre dernier concernant les priorités de la Belgique lors de la COP21, la Chambre des représentants demandait déjà au gouvernement d'engager un certain nombre d'initiatives en ce sens. Et cette résolution préfigure des débats qui devraient se tenir prochainement, à relativement brève échéance au niveau politique en Belgique, concernant cette transition bas carbone. Tous les niveaux de pouvoir sont-ils, et c'est surtout à vous que je m'adresse là, Étienne Hanon, sur la même longueur d'onde chez nous, donc au plan national, mais aussi y a-t-il un consensus entre entités fédérées, fédérales, qui parlent d'une seule voix ?
Alors parler d'une seule voix, ce serait un grand mot, mais disons qu'il y a un certain nombre de blocages qui ont quand même été levés récemment, puisqu'il y a quelques mois, les 3 régions et l'État fédéral sont parvenus à un accord sur le partage de la charge. Alors il s'agissait de la charge pour 2020, c'est-à-dire les engagements de réduction de la Belgique en 2020, qui découle du paquet climat-énergie européen. Et alors, il était temps qu'on franchisse cette étape. Elle a enfin été franchie. Et maintenant, le prochain débat qui va débarquer d'ici quelques mois, c'est celui sur l'effort que la Belgique va consentir dans le cadre européen à l'horizon 2030, puisque l'Union européenne s'est fixé des objectifs. Je parlais tout à l'heure des 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en Europe en 2030. Cet effort va devoir être distribué entre les États membres. Et donc, ça, c'est une négociation dans laquelle la Belgique va s'engager, qui est une négociation difficile et où les 3 régions peuvent avoir des approches différentes, les 3 régions et le fédéral. Donc, il y a une négociation interne à la Belgique pour le positionnement belge. D'une manière générale, on se présente dans cette négociation en disant qu'il faut tenir compte de la capacité de la Belgique à produire certains efforts et aussi de l'efficacité en termes de coûts, donc de pas trop pénaliser notre économie.
On a un peu l'impression que ça fonctionne en cercle concentrique. Oui, en Belgique, par exemple, il faut que toutes les entités fédérées se mettent d'accord pour arriver à un plan national. Oui. Ça doit, dans d'autres États européens, j'imagine que c'est pareil, même si on sait bien que toutes les manières de gérer la représentativité de l'État ne sont pas pareilles parmi les 28, mais enfin, il n'en demeure pas moins. Après, il faut passer à l'échelon européen, ensuite...
Oui, et puis les solutions, ce n'est pas juste dire je vais planter autant d'éoliennes, mettre autant de panneaux photovoltaïques. Il y a un vrai changement organisationnel aussi à faire dans le système électrique, les réseaux électriques, qui vont agir comme le vecteur principal de transport de l'énergie. Hein. Donc actuellement, le vecteur principal, c'est plutôt le pétrole, hein, et un peu beaucoup de gaz aussi, mais moins le vecteur électrique. Et donc, il faut réorganiser tout ce secteur. Là, le design de tout secteur là. Et je pense, moi, que l'architecture qu'on connaît à l'heure actuelle pour les réseaux électriques, des réseaux de distribution auxquels sont connectés des chars, puis transport auxquels est connecté beaucoup de générations, avec des monopoles au niveau des réseaux de distribution, je pense que cette architecture là n'est plus appropriée du tout. Même la manière dont le design des marchés de l'électricité est fait n'est plus appropriée du tout. Il faut avoir des changements absolument législatifs qui permettent la création, en fait, d'entités énergétiques plus ou moins autonomes, de coopératives énergétiques. Et on est encore loin. On voit même qu'on a une législation qui va à l'encontre de ça parce que ça attaque le monopole des gestionnaires de réseaux de distribution. Donc, il y a plein de choses techniques comme ça qu'il faut résoudre, organisationnelles qu'il faut résoudre. Et on n'y est encore nulle part. Or, pour moi, c'est essentiel pour pouvoir réaliser une transformation énergétique majeure de notre système. On doit repenser toute l'organisation et repenser vraiment, enfin, ça paraît un peu bobo ce que je dis là, la relation entre citoyens et énergie. Est-ce que vraiment on veut évoluer vers un système énergétique où c'est le citoyen qui est actionnaire, en fait, qui a ses propres panneaux, qui est actionnaire des panneaux qui formeront sa rue photovoltaïque? Est-ce qu'on va aller vers ça? Est-ce qu'on veut toujours que ce soit le privé, en fait, qui possède ces moyens de production-là? Il y a des changements sociétaux qu'il faut discuter et il faut faire les bons choix. Et on a trop l'impression maintenant que dans le débat énergétique, on ne veut pas en discuter de ces choix-là. On veut juste discuter, oh oui, est-ce qu'on doit mettre autant d'offshore, autant de PV, mais on ne discute pas assez des changements organisationnels que ça devrait impliquer. Et c'est là que sont les vrais changements, à mon avis.
Alors l'imagination doit être au pouvoir sur le changement technique, donc si je vous comprends bien, Damien Ernst.
Oui, donc elle doit non seulement l'imagination, je pense qu'il faut des gens imaginatifs et il faut des techniciens. Et ce qu'on remarque maintenant, notamment au niveau du fédéral, moi je ne vois pas une vision correcte émaner. Je ne dis pas du tout que c'est mieux dans les régions, hein, je ne dis pas ça. Mais donc on manque finalement de vision, de pouvoir politique.
Mais est-ce que cette vision, on peut la retrouver ailleurs, dans d'autres États qui développeraient des politiques?
Je pense qu'en Allemagne, la vision, notamment au niveau des coopératives énergétiques, en Allemagne, en Hollande, c'est meilleur. Aux États-Unis aussi, je les trouve meilleurs. En France, je pense que c'est catastrophique. Mais en Belgique, ce n'est pas bon du tout. Il faut une réorganisation du système et on ne veut pas discuter de ça. Par exemple, le véhicule électrique, comment est-ce qu'on réorganise notre système? Il arrive à grands pas, le véhicule électrique. C'est une chance pour la Belgique pour rencontrer ces futurs accords, ces contrats de 2030. Mais même la manière dont on va les intégrer dans les réseaux électriques, c'est pas gagné du tout. Hein. C'est des immenses charges. La manière dont on va exploiter leur flexibilité, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, le véhicule électrique comme un nouveau vecteur pour transporter l'énergie d'un point à un autre? Par exemple, vous vous déconnectez du réseau et le soir, votre voiture électrique recharge vos batteries à domicile. Donc, il y a plein de discussions comme ça à avoir. Il y a plein de nouveaux modèles, en fait, qui peuvent s'imposer. Et je pense qu'il faut, en tout cas, les essayer.
Mais ces modèles existent déjà, donc ce sont des choix politiques qui doivent être
posés. Tout va très vite maintenant dans le domaine de l'énergie, de par une diminution du coût du photovoltaïque, qui encore aurait pu être plus rapide, à mon avis, si la COP21 avait en gros mieux travaillé, et une diminution très rapide des coûts des batteries. C'est des éléments très, très déstructurants pour tous nos systèmes énergétiques. Et donc, je pense qu'il faut essayer qu'il faut qu'il y ait plus de pilotes qui permettent d'essayer de nouveaux modèles, en fait, des quartiers pilotes, des centres de PME comme ça pilotes, des modèles beaucoup plus axés sur la coopérative énergétique et même des modèles où, en gros, l'électricité en fait, n'est plus transmise d'un point à un autre avec le réseau électrique qui sera saturé hein, si on doit satisfaire ces objectifs COP21, mais bien par des batteries. Donc voilà, il faut essayer, être un peu plus créatif en fait. Or, on ne l'est pas du tout à l'heure actuelle. Et la vitesse avec laquelle la régulation, donc ce qui organise vraiment le secteur de l'électricité, évolue, est incroyablement lente, en fait. Et donc, on a un système...
C'est paradoxal. Vous êtes en train de nous dire, Damien Ernst, que tout va de plus en plus vite, mais qu'on n'arrive pas à suivre le mouvement, finalement.
Non, la technologie évolue vite. Mais la manière dont on organise notre société, ça va donc au niveau législatif et au niveau régulatoire, bouge incroyablement lentement. Et donc, c'est assez amusant, quoi, parce qu'on a vraiment un modèle organisationnel qui est complètement à la traîne par rapport aux évolutions technologiques. Donc j'ai envie de vous dire, pour moi, hein, la vraie contrainte en termes de transition énergétique, hein, je ne la vois plus comme étant technologique. J'aimerais que la technologie aille encore plus vite. Je pense qu'elle pourra aller plus vite. Mais le vrai frein, c'est les modèles organisationnels, le modèle régulatoire qu'on a en place à l'heure actuelle. Et moi, j'ai l'impression que si on ne change pas ce modèle régulatoire, si on ne permet pas des modèles beaucoup plus riches, beaucoup plus coopératifs, beaucoup plus flexibles, ces contraintes COP21, on va les payer énormément. Comme on a payé, je trouve, jusqu'à l'heure actuelle, notre énergie renouvelable beaucoup trop chère. Et donc, j'ai l'impression que c'est cette inaction politique, hein, régulatoire, qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec une énergie de plus en plus chère pour les citoyens.
Voilà, vous parliez il y a un instant de contraintes, contraintes positives hein, d'ailleurs, qui pourraient stimuler des nouvelles initiatives. Y a-t-il à terme, à partir du moment où... l'accord de Paris de la COP21 sera ratifié et j'ai cru comprendre que vous pensiez que, dans le meilleur des cas, ça pourrait se faire dans les 2 ans, Étienne Allon. Y a-t-il quand même des sanctions à la clé pour les États qui ne suivraient pas l'engagement pris ?
Oui, enfin, je voudrais revenir un petit instant, si vous me permettez, sur cette question de la gouvernance en fait, que vous soulevez. Je crois qu'effectivement, ce qui manque aujourd'hui, c'est un dispositif décisionnel qui permette de se projeter dans l'avenir et de développer des visions stratégiques. On est beaucoup trop dans le court-termisme et du coup, en n'ayant pas ces visions stratégiques, on ne parvient pas à prendre les décisions à temps pour prendre les orientations qui sont nécessaires pour déployer tout ce potentiel qui existe au niveau technologique.
Alors, juste quand vous dites « on », à qui faites-vous allusion ? Est-ce que vous faites allusion une fois de plus ? Parce que je rappelle que oui. La conférence à laquelle vous allez participer, qui s'intitule « L'accord de Paris sur le climat, quel défi pour la Belgique ?» Donc, a priori, on essaie de voir quels sont les impacts de ce traité sur nos cadres nationaux. Est-ce que c'est quand vous dites « on », est-ce que vous pensez aux politiques nationales ou bien plus largement ?
Je pensais en particulier à l'échelon national, mais c'est valable... au niveau d'autres pays aussi. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une impulsion, et heureusement, qui vient de l'Union européenne, en faveur d'une beaucoup plus forte intégration entre les politiques environnementales et énergétiques. Dans le temps, les politiques énergétiques et environnementales menaient leur vie propre. Il y avait le climat qu'on rattachait plutôt à l'environnement, qui menait sa vie, à côté d'une politique énergétique qui était surtout préoccupée par le fait d'assurer une sécurité d'approvisionnement et des prix concurrentiels, des prix bas pour l'énergie. En fait, aujourd'hui, il faut que ça se rejoigne. Une première étape avait été franchie au niveau législatif européen avec l'adoption du paquet climat-énergie peu avant 2010. Et aujourd'hui, ce que l'Union européenne dit, avec notamment son projet d'union énergétique, c'est, et c'est d'ailleurs une obligation, chaque État membre doit développer un plan national intégré climat-énergie avec une vision à long terme. Et donc, le défi, et là, on est à la case zéro, là, je suis d'accord avec Damien Ernst, en Belgique, dans le développement de cette vision énergétique et de cette politique intégrée climat-énergie. Donc c'est vraiment, je crois, aujourd'hui, s'il y a un chantier prioritaire en Belgique relativement à ce dossier, c'est de s'asseoir autour de la table entre les différentes autorités et d'adopter une vision commune sur ce que sera le système énergétique belge demain. Et sur cette base, alors... les différentes autorités qui sont compétentes, parce que de facto, la répartition des compétences est telle en Belgique que les trois régions et le fédéral ont des compétences en la matière, pourront enfin inscrire leurs actions propres dans cette perspective et non plus de manière trop souvent éclatée comme ça a été le cas. Oui. Jusqu'à présent.
Et pour que ça marche, hein, donc, il faut des ministres de l'énergie avec une vraie vision énergétique. Parce que cette stratégie de mettre tous les acteurs du système dans une pièce en disant et en faisant presque du vote, qu'est-ce que vous voulez, à quoi est-ce que vous pensez que le système, à quoi est-ce qu'il ressemblera demain, ben, chaque acteur en fait défend un peu ses intérêts et vous avez finalement un système qui ne change pas. Il n'y a pas de rupture en termes de vision. Un peu de risque ou de créativité régulatoire qui se crée avec cette démarche-là. On ne peut plus se permettre maintenant, je pense vraiment, d'avoir des ministres de l'énergie qui ne pensent pas énergie et qui ne sont pas des professionnels de la question. Dans un domaine où tout change, ce n'est plus payable. Enfin, il faut des gens qui aient une sensibilité scientifique et technique. Hein. Et c'est hyper essentiel.
Et c'est hyper essentiel. Cette transition énergie, on reviendra sur la question dans un instant des éventuelles sanctions, Étienne Hanon, mais cette question de la transition énergétique que vous appelez de vos voeux, et que vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, permettrait d'éviter aussi des problèmes d'approvisionnement, comme on a pu le craindre ces deux derniers hivers, avec ce risque brandi du blackout.
Donc on voit bien qu'on s'oriente avec un monde PV batterie. Hein. Ça va être ça la solution.
Oui, ça,
je lisais encore une interview du Chief Strategy Officer Benelux d'Engie, hein, donc Engie Electrabel, comme ça, qui a dit exactement la même chose dans une interview à l'Écho ce week-end. Hein. Il a dit exactement la même chose. Bon, le futur, c'est PV batterie. Et il donne même des chiffres à l'horizon 2030. Donc, ils ont certainement des analystes qui font des prédictions à longueur de journée. Et les chiffres sont vraiment bon marché pour ça. Mais pour le PV, on le voit
photovoltaïque,
bien.
Photovoltaïque, hein, PV.
Photovoltaïque. On souffre d'un talon d'Achille en Belgique. C'est la fluctuation intrasaisonnière. Donc, beaucoup de photovoltaïque en été.
Peu c'est pendant, le stockage.
Le stockage avec batterie, ça, sur quelques jours, je pense que ça va être résolu d'ici quelques années. Ce ne sera pas cher. Mais c'est les grosses quantités de stockage qu'il vous faudra pour vraiment translater une partie de l'énergie produite en été vers l'hiver. Et là, ce qui manque, c'est du stockage. Enfin, ce qu'il faut, c'est du stockage sous forme de gaz, sous forme gazeuse. La filière, ce qu'on appelle puissance to gas, power to gas en anglais. Donc, par exemple, générer de l'hydrogène et puis récupérer cet hydrogène-là, par exemple, en hiver pour de l'électricité ou bien l'utiliser, par exemple, dans la filière transport. Donc, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'on observe maintenant en termes d'évolution technologique, ce truc power to gas n'avance pas assez vite. Et donc, on voit bien que si on migre, hein, si vraiment on veut avoir une solution de transition énergétique en Belgique, on doit aller vers le PV, persuadé que le prix du PV va descendre assez vite, des batteries va descendre assez vite. Mais la filière Power to Gas, je ne sais pas, on ne sait pas encore très bien vers où elle va. Elle n'a pas eu cette même impulsion que le monde des PV et des batteries a eu. On en a besoin, justement, pour gérer ce problème de sécurité d'approvisionnement en hiver. En tout cas, c'est une des solutions dans un contexte où il y a beaucoup de photovoltaïque. Donc là, il y a un petit mystère technologique qui reste.
Petite question rapide, qui n'a pas à voir directement avec notre sujet, mais quand même, vous parlez de batteries qui pourraient servir... aider à dépasser, à changer un petit peu nos manières d'utiliser l'énergie. La production de ces batteries n'a pas d'impact particulier sur l'environnement.
J'aime bien votre question, en fait. Vous êtes venu comment au travail ce matin en voiture, en fait? Donc tout le monde a une voiture, et là, personne ne se pose la question du fait qu'une voiture puisse avoir, la fabrication de la voiture puisse avoir un impact sur l'environnement. Mais par contre, quand on dit aux gens, ah, vous devriez peut-être avoir une batterie chez vous, vous en mettez trois dans le coffre de votre batterie, de votre voiture, des batteries domestiques. Là, tout à coup, attention, impact environnemental. Mais non, l'être humain, le Belge, il consomme beaucoup d'objets par jour. Ce sera un objet en plus, objet qui est recyclable.
Faux débat, donc, selon vous.
Faux débat, oui.
Très bien. Alors, cette question des sanctions, parce qu'on revient à l'accord de Paris, quelle est sa portée réelle pour qu'il puisse y avoir une mise en œuvre pratique et concrète sur le terrain? Il faut quand même que de temps en temps, on puisse agiter le bâton et non pas simplement montrer la carotte. Ce bâton, il existe quelque part?
Oui, alors au niveau de l'accord de Paris lui-même, la voie qui a été suivie par les négociateurs, c'est plutôt ce que je vais appeler la soft law. Hein. Ce n'est pas... une contrainte au niveau du respect strict des engagements de réduction, comme on l'avait dans le protocole de Kyoto, qui établissait dans une annexe de l'accord des chiffres précis de réduction pour les différents États. Ici, l'approche qui a été suivie est une approche basée sur des contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire que c'est chaque État partie au traité qui définit ce qu'il est prêt à réaliser comme engagement et qui actualise sur une base périodique au cours de ce qu'on a appelé un cycle d'ambition. Un cycle, en fait, l'objectif, c'est de mettre en place un cycle vertueux au cours duquel, sur une base périodique de 5 ans, les États actualisent, mais toujours à la hausse, l'ambition de leurs engagements. Mais donc, ça reste des engagements qui sont déterminés donc selon une approche bottom-up, si vous voulez. Ce sont les États qui eux-mêmes déclarent, c'est ce que l'Union européenne a fait. Elle a déclaré dans le contexte de l'accord de Paris, nous allons réduire nos émissions de 40% en 2030. Alors, la vraie obligation en termes juridiques pour la Belgique, elle viendra surtout de l'échelon européen, puisque là, effectivement, ça découle de directives, de textes de loi européens. Et là, si la Belgique ne respecte pas sa part de cet engagement, elle entrera dans des procédures de mise en demeure, de procédures en infraction, d'astreinte éventuellement. Mais ce sera au niveau européen que ça va se faire.
Est-ce qu'on peut jouer la compétition entre les États? Parce que vous parlez de cercle vertueux, oui. De manière à créer une certaine pression sur les États.
On peut en tout cas valoriser. Donc si un État membre, pour parler de l'Union européenne, va au-delà de son objectif, donc réalise mieux que son objectif.
C'est envisageable, ça ?
Oui, c'est tout à fait envisageable. Et il peut échanger à ce moment-là, parce qu'il y a tout un système. Enfin, en Europe, il y a deux grandes enveloppes d'émissions. Une qui est soumise au système de marché carbone, l'ETS. Ce sont en gros les industriels. Et puis le reste, les secteurs des bâtiments, transport, etc., agriculture, qui ne sont pas soumis à ce marché du carbone. Mais dans les deux cas, il y a un système d'unités qui sont valorisables sur un marché du carbone, si vous voulez, ou que vous pouvez échanger. Donc oui, il peut y avoir un avantage économique pour un acteur, que ce soit un État ou une entreprise, une société, une industrie, à aller au-delà de son objectif.
Alors, vous trépignez d'impatience.
Non, je ne trépigne pas d'impatience. Enfin, je trouve ça très bien, mais il faut bien vous dire qu'en 2030, en 2016, 2030, c'est dans 14 ans, moi, je me réjouis de voir où en est la technologie. Moi, ce que je pense, c'est qu'en 2020, maintenant, on a un pétrole et un gaz qui est relativement bon marché. Mais on sait bien que maintenant, il y a des sous-investissements dans ce secteur-là. Plus personne n'investit. Donc, on va revoir, en fait, un rebond, à mon avis, des prix du pétrole et du gaz d'ici 2020. Et je pense qu'il va être même très, très sévère, ce rebond-là. Extrêmement sévère. À partir de 2020, avec ce rebond-là du pétrole ou du gaz, j'ai presque envie de dire, il faudra payer les pays pour continuer à développer leur filière, peut-être pétrole et gaz. Hein. On peut très bien arriver dans ce genre de contexte-là. Maintenant, si on regarde en Belgique, vous utilisez en fait du photovoltaïque pour alimenter votre voiture électrique, c'est moins cher, enfin ça devient moins cher que d'utiliser du pétrole. Donc en 2020, à coup sûr, c'est moins cher. Donc peut-être que ces systèmes de contrats dont on en parle, enfin comment je vois l'évolution du secteur, j'ai même pas envie de dire peut-être, je suis quasi certain qu'on en aura plus besoin. Le seul combustible fossile qui, à mon avis, a un espoir de pouvoir rentrer en fait encore en compétition en 2030 avec des renouvelables et stockage, c'est le charbon. Parce que le charbon, il y en a beaucoup, hein, charbon. Facilement accessible, énormément de charbon. Donc c'est tout. Mais pour moi, pétrole et gaz, surtout pétrole, ne sera plus faire face aux renouvelables en 2030, aux photovoltaïques, aux batteries, aux véhicules électriques. C'est terminé. Et on le voit venir, on voit même venir des législations, parce qu'on dit toujours on est courageux avec la COP21, c'est des législations environnementales, mais je ne suis même pas sûr avec les progrès technologiques qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'on est tellement courageux que ça? Est-ce que c'est tout à coup un hasard que les États-Unis soient de bonne volonté pour signer ces accords climatiques? Non, je pense qu'ils commencent à les signer à partir du moment où ça ne coûte que très peu d'argent ou pas d'argent, ou c'est juste une décision économique rationnelle de les signer en mettant même de côté l'aspect environnemental. Donc on pourrait même relativiser en fait la victoire, cet accord historique COP21, et dire ben, finalement c'est un accord fait par des personnes rationnelles qui vise à maximiser un bénéfice économique. Hein. Donc ça pourrait être une autre interprétation.
Je crois que c'est pas incompatible. Je pense que les deux vont de pair. En fait. Et effectivement, les acteurs économiques, les acteurs financiers, les acteurs industriels, dans leurs décisions d'investissement qui portent sur des longues périodes, des décennies, intègrent en fait ces nouveaux éléments. Et effectivement, une fois que les technologies atteignent leur maturité commerciale, une fois que ces groupes industriels qui ne sont pas des philanthropes, hein, c'est juste des décisions très pragmatiques de rentabilité, voient qu'effectivement il y a un avantage, ils s'orientent vers ces nouvelles économies, vers l'économie décarbonée, et c'est tant mieux. Et je crois qu'effectivement ça a pu encourager les États à accepter de conclure l'accord de Paris, et l'accord de Paris lui-même, en retour, est un encouragement, un signal très fort au niveau adressé à la communauté internationale et aux acteurs économiques et financiers, qu'il est temps de réorienter l'investissement. Et c'est un des gros enjeux au niveau mondial actuellement. Donc, on parle de milliers de milliards de dollars qui restent annuellement investis dans la vieille économie, entre guillemets, c'est-à-dire l'économie du carbone. Un énorme enjeu aujourd'hui, c'est de réorienter cet énorme investissement privé. Hein, on ne parle pas d'argent public ici, on parle des énormes flux financiers dans le secteur privé, de les réorienter vers l'investissement bas carbone, vers les nouvelles technologies. Et petit à petit, on voit effectivement que des grands groupes, avant c'était un petit peu à la marge, et aujourd'hui on voit que des grands groupes industriels, des énormes groupes qui ont pignon sur eux au niveau mondial, ont entamé ce virage. Et on commence d'ailleurs aussi à parler d'une bulle du carbone, et à un moment donné, ceux qui auront investi leurs billes dans les économies fossiles, vont voir s'effondrer leurs investissements. Donc il y a un signal qui commence à percoler aujourd'hui au niveau de tous les acteurs. Et ça, c'est un signal qui est certainement très positif.
Ouais. Et avec le risque que chaque fois qu'il y a un effondrement des investissements dans le fossile, parce qu'on a quand même encore une soif immense pour du fossile, des énergies fossiles, c'est immense.
Et ne parlons chaque pas fois, du gaz de schiste.
Oui, ça, je pense qu'elle est plus ou moins condamnée, cette filière-là. Mais à chaque fois qu'il va y avoir sous-investissement vers le fossile, on va se reprendre des pics immenses de prix au niveau du fossile, comme on a vu vers 2008, des barils à plus de 120 dollars comme ça le baril, qui vont être très pénalisants pour l'économie aussi. Donc on va se jouer, je pense qu'on va assister à une mise à mort de la filière fossile. Ça va être une mise à mort quand même qui va quand même avoir, à mon avis, des conséquences très dures, périodiques très dures pour notre société qui en dépend toujours. Parce qu'en gros, les acteurs, plus personne n'investit ou très peu de gens veulent faire encore de gros investissements dans le domaine du fossile. On en a toujours besoin. On arrive en sous-capacité. Les prix augmentent, on en a besoin. Donc c'est destructeur pour une économie. Puis, à mon avis, les prix rediminuent aussi un peu après. On fait des investissements et puis de nouveau, on n'en fait plus. Enfin, il y a un jeu qui va se créer maintenant avec la filière fossile qui va être, qui risque de créer en fait vraiment des surprises à nos économies. Oui. Donc, je me réjouis de voir comment ça va se passer. Et je pense que la prochaine surprise sera vers 2020.
C'est le défi d'une reconversion industrielle, à très large échelle. Et donc, effectivement, il y a des défis sociaux, notamment, qui vont accompagner cette reconversion, cette transition. Et c'est la raison pour laquelle les syndicats, notamment, qui étaient présents à Paris à la COP21, qui suivent de très près ces négociations, insistent lourdement pour qu'on ait à l'esprit la nécessité d'avoir une transition juste d'un point de vue socio-économique, d'un point de vue social, et qu'on ne pénalise pas des couches entières de la société. Et effectivement, c'est un enjeu énorme. Une fois, à partir du moment où on va devoir abandonner certains domaines d'activité économique et en ouvrir d'autres, alors c'est aussi un énorme gisement d'emploi de l'autre côté. Mais on sait bien, historiquement, on a vu ce que ça voulait dire, une reconversion industrielle, ce que ça pouvait vouloir dire si ça n'était pas correctement accompagné. C'est pas parce qu'on crée un gisement d'emploi ici que automatiquement les emplois qui sont supprimés ailleurs vont être transférés par les vases communicants. Donc il faudra accompagner cette transition.
Pour l'Europe, j'ai envie de dire, cet accompagnement, vu qu'on importe quand même énormément de notre énergie fossile et c'est ça qu'on va aller attaquer, j'ai l'impression que si on arrive à développer en fait une industrie forte dans le domaine du renouvelable, on a une énergie éolienne qui est assez forte, de fabrication d'éolienne qui est assez forte, on a très peu en batterie, très peu en PV, en photovoltaïque en Europe. Si on arrivait à développer ça, ce ne serait que bénéficiaire, parce que ce ne serait pas nous qui serions les grands perdants de la fin du fossile. Oui, on a des usines de transformation, du pétrole en essence, des raffineries, ce genre de choses-là. Mais je ne pense pas qu'on serait perdant. On peut faire un changement ici d'organisation, de moyens de production d'énergie, finalement sans trop endommager des secteurs industriels qui existent à l'heure actuelle en Europe. Vraiment de par le fait qu'on importe beaucoup de combustibles fossiles.
Voilà, merci beaucoup Étienne Hanon, merci beaucoup Damien Ernst. Merci. Je rappelle Étienne Hanon que vous êtes le co-titulaire d'un cours consacré au changement climatique à l'ULB, sous l'égide de l'IGEAT, l'Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire, et que vous êtes également conseiller au SPF Santé publique et environnement. Et vous, Damien Ernst, vous êtes professeur à l'Université de Liège, spécialiste des questions énergétiques. Dire encore que cette conférence, donc intitulée Accord de Paris sur le climat, quel défi pour la Belgique, point d'interrogation, du 28 avril, eh bien c'est le CEDD, le Centre d'études du développement durable, qui est à la manœuvre. C'est une unité de recherche de l'IGEAT dont on vient de parler. Et ce centre a permis donc... cette réalisation de conférence, il réalise des études multidisciplinaires relatives aux différents aspects des politiques et stratégies d'environnement dans le cadre du développement durable. Notez aussi le soutien de la Fondation Bernheim, la Fondation Bernheim qui développe une stratégie de participation au lancement de projets innovants à long terme. Ça doit vous parler particulièrement, Damien Ernst, pour réaliser les changements nécessaires pour améliorer notre cadre de vie de manière durable et la qualité de la vie. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette COP21. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée en gros aux accords de Paris sur le climat. Quel défi pour la Belgique ? Étienne Hanon, co-titulaire du cours Changement climatique, version sciences et politiques à l'ULB, était là pour nous en parler. Il est également, seconde casquette, conseiller SPF Santé publique et environnement. Il était accompagné de Damien Ernst, qui lui est professeur à l'Université de Liège, spécialiste des questions énergétiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.